suis heureux de saluer de manière toute spéciale Mgr Vincent Landel, évêque émérite de Rabat, le Père Jean-Luc Morin, supérieur régional de la congrégation, le Père Laurent Bachot aussi, recteur du sanctuaire de Bétharram et vicaire régional également de la congrégation. Et vous, chers frères et sœurs, vous êtes venus nombreux et je remercie tout particulièrement Monsieur le curé de votre paroisse, de la Trinité d'Oloron et des paroisses environnantes, Monsieur l'abbé Jean-Marie Barène, et toute sa belle communauté paroissiale, en particulier pour l'accompagnement que vous avez donné à Vianney pendant 3 ans, pour l'aider à s'insérer dans notre diocèse. Vianney, j'ai bien conscience que c'est la Providence qui t'a guidé chez nous. C'est le Seigneur qui t'a planté, pour l'instant, dans cette terre béarnaise, d'abord le Haut-Béarn avec Oloron, maintenant le pays de Nailles, où tu exerceras les premiers pas de ton ministère. Tu as dû quitter ta terre, et tu me le dis dans ta lettre de demande du diaconat. Mais tu dis précisément que cela t'a permis, in fine, de t'attacher à celui que tu veux servir, c'est-à-dire le Christ, avec l'exigence de tout laisser derrière. Et tu ajoutes, le Seigneur sait ce qu'il fait. Et nous pensons bien sûr à la vocation d'Abraham, à qui le Seigneur demande de quitter son pays, sa parenté vers le pays qu'il lui indiquerait, et il s'en alla sans savoir précisément où il arriverait. Mais l'on sait que son oui, sa réponse à l'appel du Seigneur, fut féconde, et ô combien. Quant à toi, Habib, tu viens d'encore plus loin, puisque tu viens du Bénin. Et ce m'est doux de le préciser, puisque moi-même je suis né au Bénin, et cela fait un petit lien de complicité entre nous. Tu appartiens à une congrégation missionnaire qui est née ici, sous l'égide de Saint-Michel Garicoitz, un prêtre basque, qui a été planté au Béarn, à Bétharram, pour fonder cette congrégation des prêtres et des frères du Sacré-Cœur de Jésus de Bétharram. Tu as vécu déjà une année à l'ombre de Notre-Dame de Bétharram et de Saint-Michel Garicoitz, qui nous est si cher ici, dans ce diocèse. Et tu vivras cette année diaconale également dans le pays de Nailles, en grande collaboration, je pense, complicité fraternelle avec Vianney. Il pourrait paraître, chers frères et sœurs, bien paradoxal d'ordonner des diacres, c'est-à-dire d'humbles serviteurs, alors que nous magnifions aujourd'hui, en cette solennité, le Christ, roi de l'univers. Et en effet, comme vous le savez, les diacres ont été institués, comme nous le rapporte Saint Luc dans les Actes des Apôtres, pour seconder les apôtres dans leur ministère apostolique, qui consiste dans l'annonce de l'Évangile. Et d'ailleurs, tout à l'heure, le rite complémentaire le plus significatif de l'ordination diaconale est précisément la remise de l'évangéliaire, mais aussi la liturgie, le service de la liturgie, qui vous appartiendra ô combien comme diacre. Mais, précisément et spécifiquement, pour être les serviteurs des tables, c'est-à-dire le service du partage avec les pauvres, mais aussi le service humble et discret de la communion, dont la table conviviale et fraternelle est précisément le signe et le symbole dans la vie des hommes et dans la vie de l'Église. Par l'imposition de mes mains et le don de l'Esprit Saint, vous allez être configurés au Christ. Déjà, tu étais pasteur de l'Église, sans doute, parce que vous recevez le sacrement de l'ordre en ce premier degré. Mais surtout, au Christ serviteur, époux de l'Église. Configuré au Christ qui n'est pas venu dans le monde, comme il le dit lui-même, pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Vous allez revêtir la tenue du service, la dalmatique, qui nous renvoie à ce tablier dont se saignit Jésus au soir du Jeudi Saint pour laver les pieds de ses disciples, lui le Seigneur et le Maître, qui accomplissait ainsi le geste réservé aux esclaves, aux plus petits des esclaves. Vous allez être ordonné pour servir le Christ qui s'identifie aux plus petits, aux plus démunis, aux plus pauvres. Les pauvretés matérielles ou économiques, sans doute, mais aussi les pauvretés morales, culturelle et spirituelle, tant il est vrai que la plus grande pauvreté, c'est de ne pas connaître le Christ, c'est de ne pas connaître la vérité, dont le Christ est le nom et le visage. Vous serez les signes du Christ et de l'Église, servante et pauvre, appelée à annoncer l'Évangile de manière privilégiée aux pauvres, quelle que soit encore une fois leur pauvreté. Et c'est sans doute en cela qu'il est paradoxal que vous soyez ordonné diacre alors que nous magnifions aujourd'hui la royauté de gloire du Christ. Nous l'avons chanté dans le psaume méditatif, n'est-ce pas ? Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence. Et la vision du prophète Daniel, comme celle de l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, n'exalte-t-elle pas cette royauté de gloire, cette domination éternelle, comme nous le chanterons nous-mêmes ou le dirons dans l'acclamation qui suit l'embolisme du Pater dans la liturgie de la messe, « À toi le règne, la puissance et la gloire ». La liturgie n'est-elle pas précisément la célébration du Christ glorieux, du Christ ressuscité, vainqueur de la mort, de la souffrance et du péché qui conduit à la souffrance et à la mort? Voilà pourquoi, comme nous dit le Concile, la liturgie terrestre est comme un avant-goût de la liturgie céleste qui se déploie entièrement dans la gloire, d'où la solennité de la liturgie, et en particulier en cette fête du Christ roi de l'univers. Et pour autant, nous n'oublions pas, et c'est là la pointe du paradoxe qui vous rejoint dans cette ordination diaconale, que pour entrer dans sa gloire, le Christ de haute lutte a acquis cette royauté de gloire éternelle, qui ne finira pas à travers l'humiliation de la passion et de la croix. Magnifique page d'évangile que nous venons d'entendre, qui est tellement centrale dans ce récit que saint Jean nous donne de la passion de Jésus et de sa mort sur la croix. Ce dialogue étonnant entre Jésus et Ponce Pilate, qui commence d'ailleurs par une question bien étrange. « Es-tu le roi des Juifs ?» Comme s'il ne savait pas, lui, le gouverneur romain, qu'il n'y a plus de royauté en Israël, qu'Hérode n'est qu'un roi de pacotille, d'autant plus flatté par l'Empire, qui lui est plus asservi. Sa royauté est comme un hochet. C'est l'empereur qui règne et qui domine sur Israël, à travers son gouverneur, Ponce Pilate, qui fait peser une domination si humiliante et si cruelle sur le peuple élu, sur le peuple de Dieu. Et vous avez vu ce que Jésus lui rétorque aussitôt. Dis-tu cela de toi-même? Ou ce sont les autres qui te l'ont dit? Autrement dit, si tu te fies aux Juifs qui m'ont fait comparaître devant toi, tu auras une idée faussée et caricaturale de ma royauté qu'ils voudraient mettre devant toi en concurrence avec le pouvoir de l'empereur romain. D'ailleurs, si ma royauté était de ce monde, j'aurais des partisans qui m'auraient empêché d'être livré aux mains des Juifs. Mais ma royauté n'est pas d'ici. Alors tu es roi. C'est toi qui le dis. Je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix comme si Jésus, d'une manière ultime, voyant dans cet homme un homme de bonne volonté, qui n'est pas prêt pour autant à le condamner, car il n'a rien trouvé de mal en lui, comme il le dira aussitôt après aux Juifs qui réclament sa mort. Si tu es de la vérité, n'aie pas peur d'écouter ma voix. L'humiliation, l'humilité avec laquelle le Christ Jésus exerce sa royauté pour entrer dans sa gloire, cette royauté glorieuse que nous célébrons dans toute la liturgie. Jésus n'est pas venu dans le monde pour exercer une royauté à la manière humaine. D'ailleurs, il l'avait dit à ses apôtres, après avoir annoncé pour la troisième fois sa passion, sa mort et sa résurrection, et qu'ils discutaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. Il les fit venir à lui, il leur dit, « Les chefs des peuples, les grands de ce monde, font sentir leur pouvoir et dominent en maître. Pour vous, il n'en sera pas ainsi. Celui qui veut être le premier, et ne dénie pas certains d'être les premiers, sera le serviteur de tous. Et celui qui veut être le plus grand sera l'esclave de tous. Car, et c'est là que se situe cette belle formule si importante pour vous aujourd'hui, Vianney Habib, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude, offrir ce service qu'il a offert précisément par son sacrifice. Lui qui est venu, comme nous l'avons dit dans la prière d'ouverture de cette messe, nous libérer de la servitude, c'est-à-dire de l'esclavage du péché, nous délivrer du péché par son sang versé, comme nous dit saint Jean dans l'Apocalypse que nous venons d'entendre. Et vous serez, vous, les ministres du sang, comme disent les pères de l'Église. Vous vous en rappellerez, n'est-ce pas? Lorsqu'au moment de la doxologie de la prière eucharistique, appelée encore la petite élévation, vous élèverez le calice qui contient le précieux sang de Jésus, qui nous purifie, qui nous délivre de l'esclavage du péché. La royauté du Christ n'est pas de ce monde. Il n'est pas question pour lui et il ne sera pas question pour vous, ni pour aucun d'entre nous, ministres ordonnés, d'exercer un pouvoir temporel, mais d'accomplir un pouvoir spirituel. Non pas sur les nations, sur les armées, sur les hommes ainsi constitués, mais sur les cœurs. Jésus a exercé sa royauté et il veut exercer sa royauté dans nos cœurs pour les faire passer d'une volonté de puissance qui est en chacun d'entre nous à cause du péché à une volonté d'amour donné pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Et c'est cela la vérité dont Jésus a témoigné, la vérité de ce royaume de justice et de paix, d'amour et de vérité, comme nous le chanterons dans la préface de cette messe. C'est cela la vérité de votre ministère diaconal, comme de notre ministère sacerdotal, que nous soyons prêtres ou que nous soyons évêques. passer d'une volonté de puissance à une volonté d'amour. C'est de cela que nous aurons à témoigner dans le mode d'exercice de notre pouvoir spirituel sur les cœurs, au nom de Jésus et en sa personne. La vérité qui se présente toujours devant nous pour nous faire passer de ce monde vers le Père, pour entrer définitivement dans son royaume de gloire, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié, humilié, qui accepte non seulement de ne pas exercer un pouvoir temporel, mais de combattre dans son cœur toutes les racines du mal, toutes les passions égoïstes de la chair, tout ce qui nous fait regimber à l'injustice et à l'humiliation. Alors nous regardons le Christ crucifié et nous entrons dans cette volonté d'amour qui s'exercera pour vous, Vianney et Habib, à travers deux grandes obligations qui sont celles auxquelles vous vous engagez précisément aujourd'hui dans votre ordination diaconale, publiquement, devant tous. La première, c'est l'engagement que vous venez de prendre du célibat sacerdotal. Vous êtes en effet configuré au Christ, tête, pasteur, serviteur et époux de l'Église. Appelé à aimer l'Église comme le Christ l'a aimé, en se livrant tout entier pour elle, en ne gardant rien pour vous. J'ai bien conscience que c'est un engagement qui implique un vrai renoncement et qui ne peut être pris librement, jamais dans la contrainte, certainement pas dans le forcing psychologique, mais parce que vous y reconnaissez un appel du Seigneur. Et quand le Seigneur nous appelle, contre toute raison, contre toute logique de la nature humaine, il nous donne à profusion sa grâce pour vivre en vérité et fidèlement son appel. Je lis dans ta lettre de demande d'ordination diaconale, tu me permettras de livrer quelques perles de cette lettre, Vianney. Je ne fuis pas le monde, ni le mariage, dis-tu. J'accepte d'y renoncer pour me rendre disponible totalement à ce que le Seigneur veut de moi. Que tout cela soit pour la gloire de Dieu et le salut des hommes, en témoignage de mon espérance pour la vie future et de ma foi dans ce que nous a annoncé Jésus. Jésus a promis le centuple à ceux qui renonceraient au mariage pour le service de son royaume et même pour anticiper à travers votre témoignage le royaume futur où l'on ne prendra ni femme ni mari, mais où nous serons comme les anges dans le ciel, où Dieu sera tout en tous. Vous serez fidèle à ce célibat seulement si vous êtes fidèle à la grâce du Seigneur, si vous êtes toujours dans une relation plus intime avec lui, si vous vivez votre diaconat, demain votre sacerdoce, dans la communion avec votre évêque ou votre supérieur légitime et leur successeur, avec les autres prêtres, avec les fidèles qui vous seront confiés, dans une humble fraternité, dans une humble attention à toute leur joie comme à toutes leurs épreuves, sans oublier d'entretenir ces affections familiales qui vous ont porté jusqu'ici, même si vous avez dû quitter père et mère, famille, terre, pour suivre le Christ. La deuxième grande obligation, c'est l'obéissance, la sacro-sainte obéissance qui est associée au Christ précisément serviteur, lui qui s'est identifié au serviteur souffrant de Yahvé annoncé par le prophète Isaïe. Lui qui s'est fait esclave dans le mystère de l'incarnation, comme dit saint Paul, et qui s'est humilié plus encore, se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. L'obéissance, si elle est par amour, qui est la source de votre liberté et de votre fécondité. Dans ta lettre, Vianney, que je cite encore une fois, tu mets en exergue cette parole de la Vierge Marie. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Marie à Cana, et je lis ce que tu me dis. C'est par ces mots prononcés par Marie aux noces de Cana que résonne en moi le ministère du diacre. Le diaconat, c'est se mettre au service du Christ et de son Église avec la même discrétion que Marie aux noces de Cana. Là où je serai envoyé, comme Marie avec elle, pouvoir intercéder auprès de Jésus pour les hommes. Image de l'Église servante, le diacre doit accepter de tout recevoir du Christ et de l'Église notre mère, être en communion avec son évêque, travailler à l'unité de l'Église. Magnifique, non? Ou dans cette obéissance, tu intègres, comme dans un écrin, ce premier ministère qui t'est confié et qui reste le premier ministère des prêtres, le premier ministère de l'évêque, c'est-à-dire la prière d'intercession, à travers la liturgie des heures, ou ce que l'on appelle le bréviaire, auquel tu t'engages à être fidèle tous les jours pour rejoindre le Christ qui est assis à la droite de son Père, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Cela signifie votre proximité, n'est-ce pas, aux hommes qui vous seront confiés, à leur joie et à leurs espérances, à leur tristesse et à leurs angoisses, pour les porter tous les jours dans la récitation humble et fidèle du bréviaire, même quand vous serez fatigué, sans jamais rien privilégier à cet acte d'intercession, de les porter dans le cœur de Dieu, de les porter dans le cœur de Jésus. L'obéissance à ce premier ministère de la prière d'intercession, comme la Vierge Marie, qui sera la gardienne et de votre célibat, et de votre obéissance, et de votre fidélité à la prière d'intercession. L'obéissance, Habib, c'est aussi celle si bien exprimée par saint Michel Garikoïts, qui nous est si cher, n'est-ce pas? Cette devise qui est la sienne, « Me voici, Unani » en basque, car il était basque, même s'il était planté en terre de Béarn. « Unani, me voici. » Sans réserve, sans retard, sans retour, par amour pour la volonté de mon Dieu. Cette volonté d'amour que le Seigneur va mettre maintenant dans votre cœur à travers la grâce de l'Esprit-Saint en vous configurant au Christ serviteur. Cette volonté d'amour pour laquelle nous sommes rassemblés maintenant dans une prière fervente à la Vierge Marie, à tous les saints du ciel, à travers ces litanies qui vont vous envelopper comme une nuée de témoins et vous faire entrer dans ce grand mystère avec tant d'humilité et tant de renoncement à soi-même. Amen.